Ce matin, nous irons dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 2. Et là-dedans, nous allons considérer deux témoins capitales, deux témoins concernant la venue du Messie. Dans son introduction à son Évangile, Luc se focalise sur le récit de témoins oculaires du Seigneur. Par exemple, nous avons quatre groupes de témoins, hein, vous avez, vous rappelez, hein, alors, sans compter les parents, Joseph et Marie, nous avions les bergers, les anges ont été voir ces bergers-là pour les prévenir de la naissance de ce roi, et ils se sont rendus à son chevet, son roi. Et puis nous avons deux autres. Nous avons deux personnes que nous verrons tout à l'heure, Simon et Anne. Et l'histoire, leurs personnages, nous sont présentés dans l'Évangile selon Luc au chapitre 2. Il me semble que nous pouvons apprendre pas mal de choses de la vie de ces deux personnes. Et donc, le premier personnage que nous verrons sera Simon. Je vous propose de lire ce texte en Luc chapitre 2 à partir du verset 25 jusqu'au verset 38. Luc 2, 25 à 38. Vous êtes là. Et voici qu'il y avait à Jérusalem un homme du nom de Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qui était d'usage d'après la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici, cet enfant est là pour la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et comme un signe qui provoquera la contradiction. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensée de beaucoup de cœurs soit révélée. » Verset 36. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était d'un âge fort avancé. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle resta veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuit et jour par des jeûnes et des prières. Elle survint, elle aussi, à cette même heure, donc au même moment. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la rédemption de Jésus, de Jérusalem. Pardon. Oui, je reprends ça. Elle survint, elle aussi, à cette même heure. Elle louait Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la rédemption de Jérusalem. Jusque-là, notre lecture. Je l'ai annoncé tout à l'heure, le premier que nous verrons, et vous l'avez lu avec moi, ça sera Simon. Simon qui s'est montré, on va le voir, obéissant à la parole de Dieu, en attendant le Christ. en attendant le Christ. Et bien sûr, le mot ici qui est important, c'est en attendant, l'attente, l'attendre. Ce que tout le monde fait et ce que personne n'aime, attendre. Et selon une étude menée justement à ce sujet, nous passons la moitié de notre vie apparemment à attendre. Nous avons des salles d'attente, nous avons des files d'attente. Il faut attendre les résultats des examens, il faut attendre des réponses, il faut attendre des appels téléphoniques et on passe notre temps à attendre. Et il semble que tout ce que nous faisons dans notre vie, c'est attendre. On attend. Quand on est petit, on nous dit d'attendre d'être grand. Et quand on est grand, tu n'as pas encore vécu suffisamment, donc il faut encore attendre. La même étude précise que nous passons près de 6 mois dans les feux rouges à attendre que ça passe au vert. Nous passons 5 années de nos vies dans les files d'attente. Je ne parle pas du temps qu'on passe chez le coiffeur, en tout cas pour ceux qui y vont. On attend. C'est pour ça que j'aime bien y aller avec un livre dans mon sac. Et selon un sondage qui date de 2018 quand même, 82% des Français se disent plus impatients qu'ils ne l'étaient auparavant. On n'aime pas attendre. Pourtant, nous avons ce dicton de notre cher Jean de La Fontaine National qui dit « Tout vient à point à qui sait attendre ». Et si on n'affectionne pas particulièrement Jean de La Fontaine, on a une pensée toute proche qui se trouve dans le livre d'Ecclésiaste au chapitre 3, verset 1, qui dit « Il y a un temps pour tout ». Un temps pour toute chose sous les cieux. Et donc, il faut attendre. Et chez Simon et Anne, nous allons voir quelques caractéristiques qui ont permis justement cette attente de la venue du Messie. D'abord, chez Simon, 2 caractéristiques physiques. Verset 2, au chapitre 2, verset 25, il nous est dit que Simon habitait à Jérusalem. D'abord, son nom, il s'appelle Simon. Il s'appelle Simon. Ah, pourquoi c'est important? Ce nom Simon, en hébreu, veut dire « Dieu a entendu ». Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieu a entendu la prière d'un homme tel que Simon qui priait pour la venue du Messie. Dieu a entendu. Simon vivait à Jérusalem, nous est-il dit, le centre de la vie politique et religieuse du peuple d'Israël. Jérusalem, c'est là que tout se passe. C'est là qu'il faut être. Comme certains le disent pour Paris. Paris is the place to be. Ou à New York. Argenteuil. Oui, c'est bien d'être à Argenteuil aussi. 3 caractéristiques spirituelles de ce monsieur. Luc nous décrit comme un homme droit, un homme pieux. Et donc, un homme droit, ce qui est fait référence ici, c'est sa relation aux autres humains. Il avait de bonnes relations avec ses congénères, avec ses contemporains. C'était un homme juste, droit. En d'autres termes, c'était un homme qui a mené une vie avec la conscience qu'il y a un Dieu, juste lui aussi, vrai. Il savait que le Seigneur exigeait de lui d'être cet homme juste et droit. Et cet homme-là pratiquait l'obéissance à la parole de Dieu. Voici un homme dont l'espérance est devenue réalité au plus haut point. Parce que son espérance s'est vérifiée. Son espérance était en conformité avec ce que la parole de Dieu lui a révélé, ce que l'Esprit Saint lui a révélé. Et vous savez, l'espoir et la prière de tout juif de son époque, c'était que le Messie puisse venir. C'était la possibilité de voir la venue de ce Messie. Et c'est exactement ce que Siméon a vu. C'est exactement ce qui lui a été promis. Et d'autre part, Luc nous dit que Siméon attendait la consolation d'Israël. Grande espérance messianique juive. On le voit lorsqu'on lit Ésaïe tout le long des chapitres 42 à 66. Il y a une consolation attachée à la venue du Messie. Il est la consolation d'Israël. Et donc Simon a attendu l'arrivée de ce Messie. Et vous savez quoi? C'était même ça son appel. Attendre. Il était appelé à attendre la venue du Messie. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi il fallait qu'il attende. Luc ne dit pas combien de temps Luc a dû attendre. Le texte semble sous-entendre que ce temps-là a été long, quand même, relativement long. Mais il ne précise pas combien de temps. Et je pense que nous sommes là en face d'un vrai défi. L'attente, par exemple, peut être quelque chose de très difficile. Dernièrement, je rappelais à notre cher Olivier ce dicton qui dit en français, vous savez, « wait » en français, enfin, « attendre » en anglais se dit « wait ». Il y a un autre mot en anglais, « wait », qui veut dire « charge ». Et en anglais, on aime bien dire « wait is a heavy load ». L'attente, c'est une charge lourde. Et vous avez deux mots qui ont la même consonance pour un peu dire combien on n'aime pas attendre finalement. Wait is a heavy load. On n'aime pas attendre. Pourtant, c'est ce que cet homme est appelé à faire. Nous pouvons être tentés, nous, dans l'attente de penser que Dieu nous a oubliés. Qu'il prend trop de temps. Et nous sommes tentés également de prendre les choses en main lorsque Dieu prend le temps qu'il faut. Et peut-être qu'aujourd'hui, le Seigneur appelle quelqu'un parmi nous à attendre. Attends. Je ne sais pas quoi, mais attends. Attends le bon moment. Attends la bonne personne pour te marier, par exemple. Attends le bon travail. Attendre. Dieu a son timing qui est parfait. Le Seigneur, vous savez, est à l'œuvre dans cette période d'attente. Nous ne sommes pas là en train d'attendre à ne rien faire. Il ne s'agit pas de croiser les bras et puis, voilà, d'attendre. Et puis la vie continue. Non. Pendant cette période, le Seigneur est actif, lui. Il nous enseigne. Il nous façonne. Il nous sanctifie. Il nous rend humbles. Et si par notre manque de foi, comme je le disais, nous voulons prendre les choses en main, soyons prêts à subir les conséquences. Soyons prêts à nous ramasser. Parce que c'est ce qui arrive toujours lorsque nous prenons les choses en main. C'est ce qui est arrivé au jardin d'Éden avec Adam et Ève. Ils ont voulu prendre les choses en main. Et nous en payons le prix jusqu'à aujourd'hui. Le temps d'attente auquel Dieu nous assigne peut être des moments fructueux dans nos vies. Il ne faudrait pas que nous méprisions ces moments. Il ne faudrait pas que nous passions à côté de ces opportunités de maturité pour notre foi chrétienne. Et j'aime à penser que Dieu utilise ces temps-là pour, justement, nous faire grandir, nous faire maturer spirituellement. Vous savez, un champignon, ça grandit vite. En l'espace de quelques jours, vous passez à un endroit, il n'y a pas de champignon, vous passez 2-3 jours après, vous avez de gros champignons. Ça pousse vite. Le chêne, ça met des centaines d'années à être mature. Que préférez-vous être, un champignon ou un chêne? Parce que le champignon, il grandit vite, mais il meurt aussi vite. Le chêne, il est difficile à terrasser. La tempête peut passer, les cyclones peuvent passer, mais il est debout. Parce qu'il a bien grandi, il a bien maturé. Et donc, dans ces temps d'attente, le Seigneur nous appelle à nous reposer en lui. Ésaïe 40, verset 31 le dit bien. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Le texte dit littéralement ceux qui attendent sur l'Éternel. Et c'est ce que a fait Siméon. Dieu voulait qu'il attende le Messie et c'est ce qu'il a fait. Attendre avec patience. Il me semble que c'est une caractéristique spirituelle merveilleuse à avoir. Savoir attendre. Attendre le temps de Dieu. Attendre que Dieu agisse. Ne pas être trop impatient. Et c'est quelque chose pour lequel nous devons prier. Seigneur, apprends-moi à attendre. Apprends-moi à attendre ton temps. Le bon moment. Ne pas être trop pressé. Aide mon frère, Seigneur, à pouvoir attendre, à pouvoir supporter ce temps d'attente. Nous pouvons aussi lire dans l'histoire qui nous est présentée par Luc que le Saint-Esprit était sur Siméon, au verset 25. Et cet homme droit, cet homme pieux, a la grâce d'être revêtu du Saint-Esprit. Un esprit qui donne direction, un esprit qui révèle les choses et qui lui a révélé, semble-t-il, qu'il ne mourra pas sans avoir vu le Messie. Quelle promesse! Quelle promesse lorsqu'on sait que c'est l'espérance de tout Israélite à l'époque. Bien sûr, on peut nuancer en disant, oui, ils attendaient un Messie, mais pour les délivrer de l'oppression romaine présente, en tout cas qu'il vivait. Mais Siméon était tout autre. Siméon avait compris bien autre chose. Et nous le verrons tout à l'heure. Nous ne savons pas, je disais tout à l'heure, quel âge il avait. Mais nous réalisons qu'il a attendu la venue du Messie une bonne partie de sa vie, en sachant, comme il lui a été révélé, qu'il verra le Messie avant de mourir. Je vous garantis que si j'étais juif, vivant à l'époque de Siméon, et que je savais que le Seigneur lui avait fait cette promesse, j'aurais été le meilleur ami de Siméon. Je marcherais partout où il marcherait, parce que je sais que Siméon verra le Messie. Et moi aussi, je veux voir le Messie. Donc je me fais de ce bonhomme-là mon meilleur ami. Parce que j'aurais voulu être là lorsqu'il dirait « Voici le Messie. C'est lui le Messie. Voici le Christ. » Écoutez comment il exprime sa joie lorsqu'il tient le Messie dans ses bras. Il loue Dieu en disant au verset 29 « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. » Siméon est prêt à quitter ce monde. Vous vous rendez compte? J'ai vu le Messie, c'est bon. See Paris Sunday, really? C'est quelque chose qui se dit. Tous ceux qui veulent visiter Paris disent voir Paris et mourir. Pour Siméon, c'était voir le Messie et mourir. Là, il était au summum de sa vie. J'ai vu le Messie. Maintenant, je n'ai plus rien à perdre, je peux m'en aller en paix. Ensuite, il continue au verset suivant, « Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Et Siméon réalise là que son temps passé à attendre le Messie, selon la parole de Dieu, est terminé. C'est fini, je n'ai plus à attendre. Et de son point de vue, je suis au bout. Tout est accompli, comme a dit Jésus à la croix. J'ai achevé mon travail. Êtes-vous à cet endroit ce matin? Cet endroit de votre vie où, si vous découvrirez que le Seigneur allait vous rappeler aujourd'hui ou demain, est-ce que vous pourriez dire « Je suis prêt, Seigneur, à m'en aller » Est-ce que vous seriez prêt à dire « Voilà, j'ai fait mon taf. Je n'ai plus rien à attendre de la vie. Tout est accompli. » Sommes-nous prêts à dire cela? J'ai plutôt l'impression qu'on serait prêt à dire « Seigneur, pas tout de suite. J'ai encore des choses à faire. Je n'ai pas encore construit ma maison, je ne suis pas encore marié. Ah, il y a des choses à faire. Donc, si tu pouvais attendre un peu, je serais ravi. » Vous savez quoi? Le Seigneur peut nous rappeler à n'importe quel moment. Moment où quelqu'un, nous devrions être prêts à quitter ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire être prêt à quitter ce monde? Cela veut dire être en paix avec Dieu et aussi être en paix avec les autres. Siméon était un homme droit et pieux. Et donc il était prêt. Prêt à quitter ce monde. J'allais demander pourquoi il était prêt, Siméon, mais... Parce qu'il a vu son Seigneur, tout simplement. Il réalise aussi par l'éclairage du Saint-Esprit que ce salut n'est pas réservé uniquement à Israël, mais qu'il est destiné à tous les peuples. Ce salut qui était Jésus lui-même est donné comme lumière pour éclairer toutes les nations. Et donc nous pouvons rendre gloire pour ce témoignage de Siméon parce que nous faisons partie de ces toutes les nations. Nous ne sommes pas du peuple d'Israël national. En tout cas pas Israël dans la chair. Nous faisons partie de ces nations pour qui le Messie est aussi venu sur terre. Et Siméon a compris bien mieux que beaucoup de ses contemporains que le but de la venue de notre Seigneur, c'est d'établir son règne, sa domination. Pas un règne physique, pas une domination physique, mais un règne spirituel. Ensuite, Siméon se tourne vers les parents de l'enfant et il les bénit et ils sont en pâmoison devant ce qu'ils entendent. Ils sont émerveillés à cause de ce qu'ils ont entendu. Et certainement, Luc ne nous a pas rapporté les paroles de bénédiction que Siméon a dites. Parce que ce qui suit au verset 24 n'a rien d'une bénédiction, on est d'accord. Et donc, il ne faudrait pas le lire en tant que tel. Parce que quelle terrible prophétie à entendre pour une mère et pour un père que ces paroles de Siméon, qui résument d'ailleurs, en très peu de mots, l'ensemble de la vie du Christ, son ministère et sa mort future à la croix. D'un point de vue, ou plutôt entendre Luc nous rapporter ce récit d'un morceau de la vie de Siméon, la question nous est posée à nous. Qu'attendons-nous? Qu'attendez-vous? Et donc voici une phrase que je vais nous dire avec un blanc et vous remplissez. J'attends surtout. Vous remplissez. Vous mettez ce que vous voulez. Et ensuite, vous soupesez et vous jugez si ce que vous attendez vaut le coup d'attendre. Comme Siméon a attendu le Messie. D'un point de vue biblique, nous pouvons connaître la réponse. Par exemple, nombreuses sont les références du Nouveau Testament qui nous informent sur l'attente du chrétien, sur l'espérance du chrétien. Et donc, ce que nous attendons, chers frères et sœurs, ce que nous espérons, l'espérance que nous avons, c'est le retour de ce même Seigneur que Siméon a vu, qu'il a tenu dans ses bras. Mais cette fois-ci, il ne viendra pas comme un nouveau-né, comme un nourrisson, non. Il viendra comme un conquérant, comme le lion de Juda qu'il est, comme le Seigneur des seigneurs, comme le roi des rois. Et le Seigneur attend de nous que nous vivions dans cette perspective de passer l'éternité avec le Christ. Nous attendons ce retour avec espérance, sachant que notre Seigneur ne nous décevra pas. Jamais. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il était de la mission de Siméon d'attendre. Et on peut se demander pourquoi. Pourquoi est-ce que, disons-le, le ministère de Siméon, c'était d'attendre. Et celui d'Anne également. Et celui des bergers également. Vous savez, en Israël, et ça c'était une loi tirée dans le Deutéronome, pour attester d'un fait, il fallait au moins 2 ou 3 témoins. Si vous ne pouviez pas produire de témoins, vous ne pouviez pas attester du fait. Dieu a jugé utile que la venue du Messie soit attestée, qu'il y ait des témoins. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bergers ont été témoins en premier lieu. Vient le deuxième témoin, Siméon. Je ne sais pas comment il a su que le bébé que tenait Marie était le Messie, mais visiblement, et le texte nous le dit, il a été poussé par le Saint-Esprit pour aller au temple. Et là, il le trouve et il le prend dans ses bras. Et il sait exactement que c'est le Messie. Il atteste que c'est le Messie qui devait venir, l'envoyé de Dieu. Qu'en est-il d'Anne? Luc nous livre quelques caractéristiques également la concernant. D'abord son nom. Anne, c'est le mot hébreu pour grâce. Et nous pouvons affirmer avec certitude que la grâce de Dieu reposait sur cette femme. Une femme, nous dit-on, prophétesse. Dieu lui communiqua donc sa parole et elle parlait à tous ceux qui voulaient l'entendre que le Seigneur était venu. Et c'est très exactement ce qu'on attend d'un témoin. C'est de témoigner. Verset 38. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. D'autres indices de la grâce de Dieu dans la vie d'Anne. Elle était avancée en âge. Elle a été veuve très tôt, visiblement. 7 ans de mariage, c'est pas beaucoup pour quelqu'un qui vit 84 ans. Et il est clair que la douleur de ce veuvage l'avait conduit au Seigneur, l'avait conduit à se consacrer à cette œuvre d'attente elle aussi. Luc nous dit qu'elle passait ses journées, ses nuits dans le temple. Elle n'en bougeait pas, dans la prière et dans le jeûne. Verset 37. Certains diront que ce n'était pas une vie très trépidante. Mais du point de vue de Dieu, c'était une vie bien remplie. Une vie bien remplie dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration à Dieu. Anne était une servante sur qui Dieu pouvait compter pour mener à bien sa mission. Constamment, elle était dans l'adoration, dans la prière. Elle cherchait Dieu dans le temple, dès qu'elle le pouvait. Une vie entière consacrée à la prière et le jeûne. Quel modèle pour nous aujourd'hui. Notre mode de vie aujourd'hui en Occident mérite qu'on la questionne. On n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. Tout va toujours trop vite. Pas le temps de passer un coup de fil, pas le temps de répondre à un texto, pas le temps. On n'a pas le temps. On a le temps de travailler, oui. On a le temps pour travailler. J'écoutais les Français, surtout pendant la grogne des Gilets jaunes. Ce que veulent les Français, c'est du temps, de loisirs. On travaille, oui, mais il faut à côté pouvoir se reposer de son travail. Et on n'a pas le temps pour autre chose. Et je me suis posé la question, dans ce cas, que faisons-nous de plus que les non-croyants? Ne sommes-nous pas des enfants de lumière, gens de la parole, qui sommes censés faire tous nos efforts pour être au pied du Père constamment, comme Anne? Faisons tous nos efforts pour être là où les enfants de Dieu se retrouvent, autour de la parole de Dieu? Faisons tous nos efforts pour être comme Anne, des personnes consacrées à la prière et à la parole, autant que nous pouvons. La prière pour notre Église, notre communauté, la prière pour les différents ministères qui la composent, la prière pour que le Seigneur suscite parmi nous des ministères. Et même pour que nous puissions être une bénédiction pour d'autres églises également. Combien il est important de soutenir notre Église par la prière, par l'enseignement, par l'instruction de la parole. Anne était une femme de prière. Nuit et jour, elle priait, se rendant ainsi disponible pour le service de Dieu. Et souvent, on se pose la question, pourquoi rien ne se passe dans ma vie, par exemple? Est-ce que Dieu m'aurait oublié? En Guadeloupe, quand j'étais plus jeune, je faisais partie, bien sûr, d'une église qui faisait partie, elle aussi, à une fédération. Et vous savez, il y avait comme, qui dirait, des musiciens qu'on appelait toujours. Et moi, je débutais au piano, j'étais peu balbutiant. Mais je ronchonnais en me disant, mais pourquoi on m'appelle jamais pour jouer au piano, moi aussi, lorsqu'il y a de grandes rencontres des églises? Et puis je me suis fait la réflexion en disant, mais t'as pas le niveau, mon gars. T'as pas le niveau. On t'appelle, tu fais comment? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis au niveau. Je me suis mis à niveau, travailler mon piano le plus possible pour que le jour vienne pour qu'on m'appelle. Et vous savez quoi? Le jour est venu où on m'a effectivement appelé. Est-ce que Dieu, dans l'état où nous sommes actuellement, peut nous appeler à son service? Si nous ne sommes pas au niveau, comment est-ce que nous pourrions être à son service? Dieu a honoré l'attente d'Anne. en faisant d'elle un témoin de sa venue. Et en retour, elle le louait. Elle proclamait à tous ceux qui montraient un intérêt pour la délivrance de Jérusalem, selon le verset 38. À tout cela, elle leur disait qu'elle a vu le Messie qui était attendu, qui était annoncé. Il est venu, il est parmi nous. Quel grand témoignage. Alors, en ce dernier jour de l'année, vous savez, en général, c'est le moment du bilan. On essaie de faire des bilans dans nos vies. L'exemple de ces deux personnages au destin particulier qu'ont été Siméon et Anne nous interroge, nous pousse à réfléchir. Quelle sorte de témoin avons-nous été en 2023? Avons-nous été des témoins fidèles envers notre engagement vis-à-vis de notre maître? Ou avons-nous été trop occupés pour lui consacrer notre temps? Une autre question, que sommes-nous en train d'attendre? Et comme je l'ai dit tout à l'heure, attendre ne veut pas dire ne rien faire. Siméon et Anne avaient une vie bien remplie. En attendant. Mais ils étaient préoccupés par la venue du Messie. Ils en avaient fait un mode de vie. Le Seigneur Jésus a promis qu'il reviendra. Il a promis qu'il reviendra pour son Église. Une Église qui est censée l'attendre. Alors, sommes-nous en train d'attendre ce retour? Et comment est-ce que nous attendons ce retour? Comment est-ce que la perspective de ce retour impacte notre quotidien? Je suis conscient de nous laisser avec des questions auxquelles chacun de nous allons devoir répondre en cette fin d'année. Mais que le Seigneur nous aide pour l'année qui vient. Est-ce que ce soit une année où nous nous consacrons entièrement à la cause du Christ, à notre rôle de témoin, des témoins qui attendent le retour de leur maître, des témoins fidèles, conscients des enjeux, conscients que l'attente n'est pas, ou cette attente n'est pas une attente, disons, passive, mais plutôt active, une attente qui engage, une attente qui, à la fin, sera bénie, récompensée. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Amen.